Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour la grande édition du soir. Votre rendez-vous d'information complet, clair et vérifié. Voici le grand titre de cette édition du soir. Nord-Kivu, Massissi s'embrase à nouveau. L'axe Katoï-Bitoï replonge sous les tirs. La FC M23 aurait repris Katoï faisant grimper d'un cran la tension et l'urgence sécuritaire dans toute la région. Les prisons au bord de l'effondrement dans la partie nord du Nord-Kivu entre surpopulation suffocante, rations alimentaires dérisoires, absence de subventions et dossiers judiciaires qui s'accumulent sans avancée, Boutembo et Lubero s'affoncent dans une crise carcérale que le Redo qualifie d'alarmante et insoutenable. Invité du jour, focus sur la mission agricole en Mbujimayi. Augustin Baharani revient sur l'évaluation de la campagne agricole 2025-2026 et sur le projet de centre de production des semences améliorées. Urgence au Nord-Kivu, la situation se dégrade d'heure en heure. Ce dimanche, de violents affrontements opposent le rebelle de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo dans plusieurs localités du territoire de Massissi. Épicentre des combats, l'axe Katoï-Bitoï, où des rafales d'armes lourdes et légères retentissent sans discontinuer depuis le première lueur du jour, plongeant la population dans la panique. Selon des sources concordantes, les rebelles auraient pris samedi soir le contrôle du chef-lieu du secteur de Katoï, faisant monter d'un cran la pression sur toute la zone. Place maintenant aux dernières informations avec vous, Richard Junior Kamunga.
Depuis 6 heures locales du matin, des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues sur l'axe Bitoï, dans l'écroulement au Faman de 2. C'est au lendemain des combats entre les deux camps AFC M23 et les Wazalendo alliés au FRDC. Toute la journée de samedi autour du centre administratif de Katoï, des hostilités ont également été rapportées dans les villages Ndete et Muhanga en groupement Wabo. D'autres accrochages étaient signalés à Machaki dans l'écroulement de Nyamaboko 1er, ainsi qu'à Lukole dans le groupement de Banyunko. Selon les sources civiles, l'AFC M23 aurait pris le contrôle de Katoï Centre samedi vers 17h, étendant leur emprise sur plusieurs villages de la zone ainsi que d'autres localités du secteur Osso-Banyunko. Après plus de 10 jours d'affrontements ininterrompus, la situation humanitaire continue de se dégrader dans cette partie du territoire de Massissi. Des centaines de familles qui venaient à peine de regagner leur maison à Katoï Centre ont de nouveau pris la route de l'exil selon la société civile locale.
Alors que les combats font toujours rage au Nord-Kivu, un autre front, celui de la paix et de la réintégration, tente d'avancer sur un rythme soutenu. À Kindu, le programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS a lancé ce samedi une formation clé dédiée au processus de démobilisation des ex-combattants. Durant 5 jours, des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise seront formés pour maîtriser avec précision les procédures de contrôle et de vérification des armements, un volet stratégique dans la stabilisation des zones en crise. Objectif: professionnaliser, sécuriser et accélérer le retrait des armes du terrain. Jeff Ntumba, assistant principal adjoint chargé de questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, en détaille les enjeux et l'importance au micro de Florence Kizalunga.
Ces formations se passeront simultanément en 4 séries. C'est-à-dire, nous aurons d'abord la première formation qui s'occupera des enfants associés aux forces et groupes armés. La deuxième formation, c'est la formation sur le contrôle et la vérification des armes. Et cette formation qui sera mise en exergue par un officier de FRDC qui est attaché au PDDRCS va porter sur comment est-ce qu'on peut vérifier, contrôler, tracer les armes. La troisième série de formations, c'est la formation sur les sensibilisateurs. Nous avons besoin besoin d'un message. Un message de sensibilisation. Un message qui puisse atteindre la cible. Et pour que nous puissions arriver à avoir un même message, il faudrait que les personnes formées puissent être à même de transmettre le bon message à la bonne cible pour un meilleur résultat. Et la quatrième série, c'est la série de formation sur les identificateurs, les vérificateurs et les orientateurs. Parce que comme vous savez, dans les opérations de désarmement et de démobilisation, il faudrait que les bénéficiaires puissent être conduits et puissent suivre un processus bien établi conformément aux standards pour que nous puissions avoir des résultats escomptés.
Surpopulation explosive, détenus affamés, absence de subventions étatiques, lenteur judiciaire, les prisons centrales de Boutembo et de Lubero tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié le 27 février 2026, le réseau pour le droit de l'homme, REDO, décrit une situation déjà critique qui ne cesse de se détériorer au Nord Kivu. À Boutembo, ce sont 1343 détenus qui s'entassent dans un établissement à court de médicaments où la moindre prise en charge médicale arrive avec un retard inquiétant. À Lubero, la crise prend un autre visage. Une ration alimentaire insuffisante qui maintient les détenus dans une détresse quotidienne. Face à cette crise multiforme, le coordonnateur du REDO, Muindo Wasivinwa, presse l'État congolais de débloquer d'urgence les subventions et d'accélérer le traitement des dossiers judiciaires afin de désengorger ces prisons étouffées.
Depuis le 1er janvier 2025 au 25 février 2026, un seul trimestre a déjà été honoré, alors que l'État devrait payer chaque trimestre une subvention pour la ration et les soins médicaux des détenus. L'absence de cette subvention est à la base de plusieurs problèmes au sein de ces établissements pénitentiaires. Il y a un nombre très élevé de malades et d'autres souffrant de la malnutrition. Et si nous appelons l'État congolais à prendre ses responsabilités par rapport à cette question des détenus. À titre de recommandation, le REDO appelle le ministre national de la justice de s'impliquer dans la question des paiements des subventions des établissements pénitentiaires, aux juridictions et instances judiciaires d'accélérer l'instruction des dossiers avec prévenu pour qu'ils soient fixés à temps de leur sort, aux bienfaiteurs de venir au secours des détenus, au gouvernement de construire une prison moderne répondant aux normes.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction de responsables judiciaires et pénitentiaires de Boutembo et de Lubero. Au Kasaï central, l'heure était au verdict. Le tribunal de grande instance de Kananga a clôturé ce vendredi 27 février ses audiences foraines en matière répressive à la prison centrale consacrée au dossier de viol sur mineurs. Sur le 13 prévenus présentés à la barre, 9 ont été reconnus coupables et lourdement condamnés. Ces arrestations rappellent la justice ont été rendues possibles grâce au travail de terrain de l'ONG Amour Plus qui a constitué les dossiers et accompagné les victimes dans leur prise en charge juridique. Les détails, c'est avec vous, André Katindi Ngalamolomé.
Les 9 condamnés écopent des peines de servitude pénale de 2, 3 et 4 ans. Ils devront également s'acquitter d'amendes compris entre 2 et 4 millions de francs congolais. Les autres prévenus, en revanche, sont acquittés pour insuffisance des preuves. Les dossiers ont été constitués par l'ONG Amour Plus RDC dans le cadre d'un projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement de la résilience des communautés. Ces programmes visent à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles dans la province du Kasaï central, en particulier dans les territoires de Luisa. Grâce à ces procès, les victimes ont pu accéder à la justice après avoir longtemps souffert en silence. Ces audiences foraines ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'UNICEF avec le soutien du gouvernement norvégien. La tenue de ces procès constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité et envoie un signal fort en faveur de la protection des droits des enfants et des jeunes filles au Kasaï central. Kananga, André Katendenga Lamoulemé, Radio Okapi.
En Ituri, dans les territoires de Mambasa, la pression devient insoutenable pour les habitants du groupement Bakaï. Yeku sous la domination des miliciens de l'Union patriotique pour la libération du Congo, UPLC. La population vit au rythme des exactions et des contraintes imposées par ce groupe armé. Ces hommes contrôlant des vastes zones minières infligent des taxes illégales et des amendes exorbitantes pouvant grimper jusqu'à 25 000 francs congolais, une somme impossible à réunir pour de nombreuses familles déjà vulnérables. La situation jugée intenable et fermement dénoncée par les activistes de droits humains qui appellent l'État congolais à neutraliser ce milicien et à restaurer l'autorité publique dans cette partie de la chefferie des Babila Babombi. Le point complet avec Jean-Claude Lokidile.
Les tenanciers de moulins et de boutiques payent mensuellement 25 000 francs congolais. À cela s'ajoute une taxe hebdomadaire de 2 000 francs par ménage contre remise d'un jeton. Cette somme peut atteindre 25 000 francs congolais selon la catégorie de ménage. Les personnes qui ne disposent pas de cet argent sont parfois soumises à des tortures et à des amendes arbitraires. Une région riche en minerais et autres ressources naturelles sous le contrôle d'au moins 16 groupes armés, indique Rams Malikidogo, acteur de la société civile, qui estime que c'est un manque à gagner et normes pour le trésor public.
Le groupement Bakaeku a plus de 20 carrés miniers où on exploite de l'or, des coltans. C'est une zone qui contient plus de bois. C'est déjà un manque à gagner. L'État pouvait en bénéficier et on pouvait vraiment encaisser beaucoup d'argent dans le trésor public à partir de cette partie. Malheureusement, ce sont eux qui contrôlent là-bas et ils exploitent illégalement les minerais et les plages.
De son côté, l'administrateur du territoire adjoint affirme que des instructions ont été données par le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et du renseignement lors de son récent passage dans la région afin de mettre fin à ces exactions qui aggravent les conditions de vie des populations. Qui attend toujours la concrétisation de ces instructions. Bounia, Jean-Claude Luki, Dile, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent ANCE accueille avec satisfaction le retour de la MONUSCO à Uvira, une présence jugée essentielle pour superviser le respect du cessez-le-feu et la cessation des hostilités dans cette zone sous tension. Cette position a été exprimée ce samedi 28 février par le secrétaire général du parti Jacques Kabé lors de la cérémonie marquant la rentrée politique de l'ANCE. Le parti de Norbert Singhézi en profite pour appeler à l'application stricte de la résolution 2773 de l'ONU qui condamne fermement l'offensive du M23 dans l'est de la RDC ainsi que le soutien extérieur, notamment rwandais, dont bénéficierait ce mouvement armé. Jacques Kabé, secrétaire général de l'ANCE, au micro de Blaise Chindani.
Nous soutenons le processus de Washington qui vient renforcer nos relations économiques. L'ANC s'inscrit dans le cadre de la paix et non de la guerre et soutient tous les processus pouvant nous amener la paix et le développement dans notre pays. L'ANC demande l'application de la résolution 2773 de l'ONU, cadre où tout le processus de paix dans la sous-région est clairement défini. Salue le retour de la MONUSCO à Uvira pour observer le cessez-le-feu et la fin des hostilités et propose au gouvernement à former une armée de réservistes et de cadets en vue de faire éclore l'esprit du patriotisme et d'élitisme au sein de nos forces de défense et sécurité de le bas âge.
Restons à Kinshasa où la coopérative agricole Bilangaya Betu place l'année 2026 sous les signes de l'anticipation. L'une de ses priorités, préparer les citoyens à une retraite réussie. L'annonce a été faite ce samedi 28 février par le coordonnateur de la structure Serge Mbaye lors d'une cérémonie d'échange de vœux organisée au centre de rééducation pour handicapés physiques. Au cœur du programme, former le retraité et pré-retraité à entreprendre dans les secteurs agricoles afin de leur offrir de nouvelles perspectives économiques et un cadre d'autonomisation durable. On écoute Serge Mbaye, coordonnateur de Bilangaya Betu, au micro de John Chibwabwa.
2026, c'est l'année de la pomme de terre. Nous envisageons de redynamiser la filière pomme de terre au Congo central, mais dans d'autres provinces aussi comme le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, la province du Tanganyika, partout où se trouvent nos membres et partout où la pomme de terre peut pousser. Je pense que nous y serons en 2026. Nous avons d'autres programmes pour les pré-retraités et les retraités. Comment commencer à préparer sa retraite pour finir sa carrière professionnelle comme entrepreneur agricole? Comment faire cette reconversion? Donc, il y a un programme femmes, Bilangabe tout jeune, pour leur donner l'amour, communiquer cette passion de l'agriculture. Donc il y a un certain nombre de nouveaux programmes qui font de 2026 une année assez ambitieuse.
Actualité internationale.
Trois soldats américains ont été tués lors d'une opération en Iran au moment où la situation militaire dans la région s'embrase. Selon les autorités américaines et israéliennes, des bases américaines ont été visées par des tirs iraniens en réponse à une vaste offensive israélo-américaine déclenchée samedi contre Téhéran. Cette opération a notamment ciblé le guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans une frappe contre un complexe du pouvoir à Téhéran, selon Israël, les États-Unis et le média d'État iranien. L'armée israélienne affirme également avoir éliminé une quarantaine de hauts responsables iraniens, dont le chef d'état-major, le ministre de la Défense, des combattants, des gardiens de la Révolution et des conseillers du guide. La télévision d'État iranienne a confirmé ce décès quelques heures plus tard. En réaction, l'Iran a décrété 40 jours de deuil national et a annoncé que trois hauts responsables assureront la transition à la tête de l'État. Pendant ces temps, Israël poursuit ses frappes au cœur de Téhéran, tandis que l'Iran multiplie les tirs de missiles et de drones contre Israël et contre plusieurs positions américaines au Moyen-Orient. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a mis en garde contre une escalade militaire constituant une grave menace pour la paix et la sécurité internationale, appelant les parties à éviter un embrasement régional.
L'invité.
À Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, la mission de la délégation du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire vient de s'achever, selon Augustin Baharani, directeur chargé des études et de planification au sein du dit ministère. Cette mission avait un double objectif, évaluer la campagne agricole 2025-2026 et identifier les sites destinés à accueillir un centre de production et d'amélioration des semences améliorées. Une étape stratégique pour renforcer la chaîne sémencière et soutenir la production agricole dans la région. Augustin Baharani en parle avec Esther Ndalafina.
Bonsoir, monsieur Augustin Baharani Mourula. Monsieur Augustin Baharani, quel est le but de votre mission au Kasaï oriental?
Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis à la tête d'une forte délégation de 19 personnes composée des experts de l'administration publique, donc du secrétaire général de l'agriculture et du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire et Mouindo Nzangi Boutondo. Et nous sommes venus dans le Kasaï oriental, je précise bien, puisque nous nous sommes déployés dans tous les 5 territoires de notre province. Et nous sommes allés dans les 5 territoires, donc j'ai cité Kabeya, Kamwangalou, Patapata, Miabi, Katanda et Tilenge. Et nous sommes dans le cadre de la mission de suivi et évaluation des activités de la campagne agricole 2025-2026, les activités qui avaient été lancées en août 2025 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, en présence du chef de l'État, c'était à Menkao. Et à ce temps-là, le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a rappelé la vision d'abord du chef de l'État en disant la revanche du sort sur les sous-sols, et a renforcé cette vision en disant allons-y pour la révolution agricole agressive. Et ça peut être très anodin quand on parle de révolution agricole agressive, mais en Tchuluba, je peux dire un zaloukasa. Vas-y vite et bien. C'est-à-dire, nous commençons maintenant et nous allons faire en sorte que nous atteignions vite l'objectif, puisque nous devons combattre la faim, nous devons atteindre l'autosuffisance alimentaire et nous avons un problème de combattre aussi la malnutrition qui sévit dans nos différentes provinces, surtout dans les grands Kasaï.
Après avoir visité les 5 territoires, qu'est-ce que vous avez constaté?
Bon, vous savez que notre agriculture est encore négligée, mais le MINETAP a pris la vision du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol, et a dit révolution agricole agressive. Nous venons commencer. Nous sommes déployés dans toutes les 26 provinces de la RDC. Et ces 26 provinces, ce n'est pas n'importe qui est en province. Pour une fois, à la tête de chaque délégation, c'est un directeur. Et un directeur qui chapeaute une mission d'autant d'experts, d'ingénieurs agronomes, d'agroéconomistes. Donc, c'est une première pour dire que nous sommes en train de vouloir que dans chaque territoire de la RDC, qu'il y ait cette revanche effective du sol sur le sous-sol. Nous allons encore en profiter pour assurer le suivi et évaluation de la campagne 2025-2026 qui consistait à la distribution des matériels aratoires, des tracteurs et de la semence et autres intrants, engrais et fertilisants. Nous assurons le suivi pour savoir à quoi est-ce que ça a servi pour la campagne saison A et à quoi ça va servir pour la campagne saison B. Et nous avons encore la noble mission de pouvoir identifier les sites dans toutes les 25 provinces, les sites qui doivent produire la semence de bonne qualité. Et nous les appelons les CAAPSA, qui signifie des centres d'amélioration, d'adaptation et de production de semences améliorées. Nous avons, en ce qui concerne les Kasaï orientales, identifié Kalenda-Kashil comme un endroit où c'est propice de pouvoir produire la semence de qualité. Et nous allons installer les CAAPSA là-bas pour que CAAPSA puisse rayonner, puisse donner de la bonne semence à travers toute la province. Voilà.
Comment évaluez-vous votre mission dans la province?
La mission s'est bien passée, sauf quelques couacs, surtout avec l'impraticabilité de la route. Je donne un exemple. L'équipe qui est allée à Kabeakamwanga, qui a été conduite par les mains de maître, par l'honorable Moulumba, qui est fils du terroir, et ils ont peiné pour parcourir les 50 km qui séparent Mbujimayi du chef-lieu, et il fallait nécessairement faire appel aussi à d'autres chefs de secteur, un moniteur agricole pour qu'il se rencontre maintenant au chef-lieu du territoire. Pourquoi? Puisque d'autres secteurs sont difficilement accessibles.
Monsieur Augustin Barahani Murula, merci.
Merci.
Vous venez de suivre notre invité Augustin Barahani, directeur chargé des études et de la planification au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Il nous parlait de la mission menée en Mbujimayi pour évaluer la campagne agricole 2025-2026 et identifier les sites destinés à accueillir un centre de production des semences améliorées, entretien mené par Esther Nalafina. Merci d'avoir suivi le journal de 18h sur Radio Capi, votre source d'une information fiable, rigoureuse et vérifiée. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Belle soirée en notre compagnie.